avec la Chine un méga contrat de fourniture de gaz. Il est de l'ordre de 400 milliards de dollars. Peut-on considérer ça comme un succès pour Vladimir Poutine?
Oui, puisque les négociations entre les deux partenaires russes et chinois ont commencé il y a 10 ans, donc elles ont duré le temps de la première période de Poutine jusqu'à ce jour. Et en plus, ce contrat arrive au moment où il y a des tensions fortes entre l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, c'est-à-dire l'Amérique et l'Europe d'un côté et la Russie de l'autre. Par conséquent, c'est une sorte de consécration de la volonté politique russe, donc évidemment symbolisée par Vladimir Poutine, puisqu'il est président de la Fédération de Russie, d'équilibrer ses relations entre l'Est, l'Asie donc, et l'Ouest, sur le plan diplomatique, politique, mais surtout économique, afin de diminuer, de faire baisser la dépendance économique de la Russie envers l'Europe et l'Occident.
Ce méga contrat intervient en pleine crise ukrainienne et de tensions avec l'Occident à propos aussi de livraison de gaz à l'Union européenne via l'Ukraine. Barroso encore en a appelé aujourd'hui à la Russie. Est-ce qu'on peut faire une lecture aussi par rapport à la position cette fois-ci de l'Europe?
Tout à fait. La Russie s'est toujours avérée un partenaire et un fournisseur énergétique extrêmement fiable, que ce soit pour l'Union européenne historiquement ou pour la Turquie par exemple par Nord Stream. Les seuls problèmes de fourniture de gaz qui ont eu lieu historiquement, ça a été lors de la crise ukrainienne, parce que l'Ukraine, qui était le pays de transit, finalement, avait des impayés tellement gros que les flux de transfert ont été coupés. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'Union européenne, un petit peu poussée par les Américains, de son diplomatique derrière, cherche à diversifier ses voies d'approvisionnement pour faire baisser sa dépendance envers la Russie. Alors, ce n'est pas la volonté européenne, c'est la volonté américaine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'activités aujourd'hui en Méditerranée autour de Chypre, puisque de gros gisements ont été découverts, que la Turquie, elle, pousse là-dessus. C'est pour ça, notamment, qu'il y a une guerre en Syrie. On a tenté de détruire la Syrie et on est en train d'essayer de détruire ce pays et de faire tomber le régime Assad, principalement parce qu'il y a un projet dans les tuyaux de livraison de gaz du Qatar par la Syrie via la Turquie pour l'Union européenne. Mais pour cela, il faut une Syrie aux ordres. Et actuellement, effectivement, avec la gouvernance de Bachar el-Assad, c'est pas possible. Donc, la Syrie fait partie des États qui payent les pots cassés de la volonté diplomatique américaine de couper les liens entre l'Europe et la Russie pour tenter de faire diminuer la dépendance européenne envers la Russie.
Alors là, on va parler de la crise ukrainienne. Dimanche, il y a des élections présidentielles en Ukraine, à Kiev. Quelle crédibilité, puisque ces élections ne pourront pas se tenir dans tout le pays, et notamment à l'Est?
Ces élections n'ont sans doute aucune crédibilité pour plusieurs raisons. La principale, c'est la suivante, c'est que historiquement, démographiquement, les élections voient la victoire du candidat qui obtient le plus de voix. Hein. C'est le principe de la démocratie, c'est-à-dire que le corps électoral majoritaire élit son président. En Ukraine, historiquement, ces dernières élections ont prouvé que les Ukrainiens ont majoritairement, avec une petite différence, majoritairement voté pour Yanukovych. C'était le cas lors des dernières élections présidentielles et c'était le cas lors des précédentes. Mais lors des élections de 2004, il a été élu, il a été renversé par une révolution de couleur. On a mis à la place le candidat pro-américain, c'était Viktor Yushchenko. Celui-ci a mené une politique désastreuse, il a obtenu 5% des voix aux élections suivantes. Et de nouveau, Yanukovych a été élu. Donc ça, il y a des élections qui vont avoir lieu. Le parti majoritaire, le parti dominant, qui est le parti des régions, le parti de Yanukovych, est interdit. Le parti d'opposition principale, qui est le parti communiste, est interdit. Donc on a des élections avec un parti unique, qui vont voir la victoire d'un oligarque, et qui vont se tenir sur un territoire dans lequel beaucoup de sujets, hein, on parle des régions de l'Est, notamment celle du Donbass, mais pas seulement, ne vont pas participer au vote. Donc on constate que le pouvoir risque de tomber dans les mains d'oligarques qui auront le soutien d'une minorité qui va principalement refléter la volonté politique électorale de l'Ouest du pays. Donc il y a des élections qui devraient avoir lieu ce week-end, elles vont accentuer la rupture entre les deux Ukraines, puisque la majorité de l'Ouest et du Sud va avoir un candidat élu par une minorité finalement qui sera issue de l'Ouest. Donc ça va aggraver à mon sens la rupture entre les Ukraines. Et je pense que ça va porter un coup encore plus sévère au processus de désintégration du pays qui est en cours.
Justement, est-ce qu'on va vers une radicalisation, un possible éclatement du pays, ou au contraire, une solution politique est encore possible?
Une solution politique est toujours possible lorsque les gens qui auront le pouvoir de discuter acceptent de le faire. Mais aujourd'hui, les élites ukrainiennes, les pseudo-élites ukrainiennes qui ont été mises au pouvoir par un coup d'État, qui ne sont toujours pas élues, hein, je le répète, elles n'ont pas été élues. Donc c'est quand même extraordinaire, ce pays gouverné par des gens qui ont été placés. C'est le modèle de gouvernance imposé finalement par l'Union européenne, où on a des gens qui ne sont pas élus, sans la Commission notamment. Par conséquent, il y a sûrement possibilité de discussion, mais malheureusement, il semble que la volonté américaine ne soit pas d'amener à la discussion, elle soit de pousser au chaos, pour des raisons stratégiques très claires. La diplomatie américaine a besoin d'une tension forte entre l'Europe et la Russie pour consolider les rangs au sein de l'OTAN, les partenaires européens de l'OTAN et de l'Amérique, et justifier l'existence d'un danger, entre guillemets la Russie, afin d'augmenter les budgets militaires des États membres de l'OTAN dans l'Union européenne. Donc, de toute façon, si les Européens, les Ukrainiens et les Russes se mettent à la table et trouvent une solution, il est évident qu'une solution politique serait possible, il est évident qu'elle se dirigerait vers une fédéralisation du pays. Malheureusement, il y a un autre acteur extérieur, l'Amérique, qui a d'autres ambitions, qui a un scénario géopolitique qui lui est propre, qui passe par la consolidation d'une hyperstructure militaire qui s'appelle l'OTAN, et cette dernière a besoin, elle a sa diplomatie propre, elle a besoin, à mon avis, d'une politique de tension à la région pour justifier son existence.
Lors du dernier référendum à Donetsk et Lugansk, ces deux régions ont proclamé leur indépendance et voudraient être rattachées à Moscou. Mais il n'y a pas eu ce qu'il y a eu pour la Crimée, la position de Moscou par rapport à la proclamation d'indépendance.
Tout à fait. En fait, si vous voulez, historiquement, la Crimée est russe, elle l'est culturellement, ethniquement, démographiquement, religieusement. La Crimée est la Russie. C'est un territoire qui a été rattaché de façon accidentelle à l'État éphémère ukrainien. Mais c'est un territoire russe dont personne ne le conteste. Donc le retour de la Crimée à la Russie, c'est l'ordre naturel des choses. Pour ce qui est des républiques de l'Est dont vous parlez, du Donbass ukrainien, ce sont des républiques ukrainiennes avec des populations russes très nombreuses et une majorité russophone. Mais il est plausible, si vous voulez, que sans complot, puisqu'on cherche toujours des complots, mais il n'y en a pas partout, Vladimir Poutine soit le plus embêté dans cette affaire. Il voit des républiques prendre leur indépendance et demander le rattachement à la Russie. Mais imaginons une seconde que ce ne soit pas lui qui soit d'ailleurs sur ces mouvements géopolitiques. C'est lui qui doit être le plus embêté finalement. Donc c'est pour ça, je pense, que la Russie n'a pas répondu, parce que je pense qu'elle observe en essayant de comprendre ce qui se passe. Et il est plausible que les demandes de rattachement territoriaux de populations ou de territoires du monde russe au sens large, donc demandes de rattachement à la Fédération de Russie, il est possible que ces demandes ne soient pas les dernières, il est possible qu'il y en ait d'autres à l'avenir, et qu'on assiste finalement à une espèce de morcellement de certains États du monde russe et de l'ensemble soviétique et de populations qui souhaitent le rattachement.